Bonjour.
Bonjour, Martin Chevzik, commissaire de l'exposition.
Voilà, donc en tant que commissaire de l'exposition, vous avez beaucoup travaillé sur la compréhension de cette époque romaine qui remonte à longtemps, mais qui aussi s'étale sur plusieurs siècles, donc c'est encore important par rapport à l'histoire, notre histoire.
Oui, oui, tout à fait. C'est un jalon vraiment de l'histoire européenne que cet empire romain. C'est le premier moment dans l'histoire où l'Europe et la Méditerranée vont être unies dans un ensemble politique. Et ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est d'une part le processus historique qui amène à cette unification, la naissance de la cité de Rome et l'extension de sa domination sur un territoire très vaste. Et ensuite, le processus de constitution progressive à des degrés divers d'une civilisation commune à l'échelle de l'empire, avec la diffusion de modèles culturels, de modèles politiques, de modèles religieux qui sont adoptés par les communautés de l'Empire. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est ce premier moment d'unification européenne qui s'étend d'ailleurs au-delà des frontières de l'Europe, vraiment en Méditerranée de manière générale.
Qu'est-ce qui a fait la force, en fait la clé de la réussite de Rome ?
Un élément, la première clé de la réussite, c'est sa puissance militaire qui va lui permettre d'étendre sa domination. Et la deuxième clé de sa réussite, c'est de ne pas avoir reposé entièrement sa domination sur la puissance militaire, mais d'avoir laissé leur autonomie aux communautés locales et d'avoir fait de l'Empire finalement un monde de cités où le quotidien des habitants est régi par les cités, où le cadre de vie naturel des habitants est la cité. Un habitant, par exemple, de la cité d'Éphèse, qui est citoyen d'Éphèse, ne dira « je suis citoyen d'Éphèse » et « oui, ma cité fait partie de l'Empire romain ». Mais son identité propre, c'est d'être citoyen de la cité d'Éphèse. Et je dirais que la réussite se situe là, au sens où l'Empire a su ne pas se substituer à la cité comme cadre de vie des habitants, mais se reposer sur ce modèle qui existait et dont l'Empire a favorisé la diffusion. Par exemple, dans les provinces gauloises, dont les peuples n'étaient pas organisés sur le modèle de la cité, on observe cette diffusion du modèle de la cité. Les hommes s'organisent en cité avec des institutions qui sont calquées sur le modèle romain et qui finalement montrent leur adhésion à ce modèle culturel et politique.
Quand on dit cité, pour nous, il y a bien sûr la ville, mais il y a aussi le vivre ensemble et la citoyenneté. Est-ce qu'on peut faire une correspondance entre la citoyenneté telle qu'on la vit ou qu'on l'imagine idéale actuellement et ce moment d'histoire ?
Oui, je crois qu'il y a un parallèle très important. Notre conception de la vie publique, de l'implication politique du citoyen dans la cité, qui est issue, je crois, de la Révolution française, est calquée sur le modèle de la cité antique qui a été très important au moment où, à l'époque des Lumières, au moment où on définit la citoyenneté dans le monde occidental moderne. Avec une différence quand même importante, qui est que la cité antique repose véritablement sur une implication directe, personnelle et presque physique du citoyen dans la vie de la collectivité par la participation à des assemblées. Le peuple dans la cité participe personnellement aux assemblées, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui puisqu'on est dans un régime de démocratie représentative, que le citoyen participe aussi à l'effort de guerre. À Rome, l'armée est civique, elle est constituée de citoyens. Et donc je dirais que cette implication du citoyen, elle est plus diffuse dans la cité moderne où finalement on repose beaucoup plus sur le modèle de la délégation. Mais malgré tout, en termes idéologiques et en termes de valorisation de la vie publique, de la vie civique, de la vie politique, notre modèle se situe véritablement dans le monde antique et dans le monde de la cité, grecque bien sûr, mais aussi romaine de manière importante.
Alors on le voit dans cette exposition, il y a une œuvre qui est là-bas et qui représente le moment où on va essayer de quantifier le nombre d'habitants, les évaluer, les peser en termes économiques peut-être aussi.
Oui, c'est ça. C'est une pondération du corps civique pour non seulement le dénombrer, mais aussi le hiérarchiser, le classer en fonction du niveau de richesse des citoyens, ce qui permet vraiment à la cité de peser ses forces, de savoir quelles sont les ressources à sa disposition, à la fois en termes militaires, puisque les citoyens, en fonction de leur hiérarchie, vont être appelés à la guerre. Les plus riches sont les plus appelés à la guerre. Ils ont le devoir véritablement de participer à la défense de la cité, et ils le font suivant les cadres censitaires qui sont établis par les censeurs, les plus riches dans les escadrons de cavalerie et ensuite les un peu moins riches, on va dire, dans les légions, et les plus pauvres ne sont pas appelés. On considère qu'ils n'ont pas les moyens de participer à la guerre. Mais c'est également des ressources politiques, puisque ces classes sociales institutionnelles vont servir de cadre pour le vote dans les assemblées et également les ressources fiscales, puisqu'on se repose principalement sur les plus riches pour contribuer aux ressources de la cité, donc un impôt qui est proportionnel.
On connaît certaines figures légendaires, des empereurs romains. À partir de quand il est décrété que Rome est devenue empire ?
Rome devient un empire au sens du régime politique dans les années 20 avant notre ère, avec la concentration des pouvoirs qui étaient autrefois répartis sur les magistrats de la cité, sur la tête d'un seul personnage qui est l'empereur Auguste, qui reçoit ce surnom d'Augustus en 27 avant notre ère, et c'est la date qui est traditionnellement retenue pour inaugurer, pour ouvrir la période de l'Empire romain, ce régime politique de l'Empire romain.
Alors justement, dans cette exposition, on a ces figures légendaires, on peut peut-être en parler quelques-unes. Je ne sais pas si on peut les donner dans l'ordre chronologique, pas forcément.
On n'a pas la série complète des empereurs romains dans l'exposition, malheureusement. On figure énormément de personnages de l'histoire romaine. On commence même d'ailleurs avant l'institution de l'Empire romain, puisque on commence avec le portrait de Pompée, qui est un des premiers personnages dont on connaît de manière assurée le portrait au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais on trouve également Auguste, son successeur Tibère, et puis après des empereurs un peu plus hauts en couleur, Caligula, qui est resté célèbre pour ses frasques. On a également un portrait de Néron, que tout le monde connaît pour ses extravagances. Et puis des empereurs plus sympathiques, Marc Aurèle, qui est l'empereur philosophe, un des représentants vraiment du stoïcisme romain. Caracalla, qui a aussi laissé son empreinte dans l'histoire romaine par sa démence. Donc on a énormément de figures d'empereurs romains, mais également d'impératrices. On a des figures de femmes qui sont très importantes, avec des caractères souvent très forts. Et je pense là en particulier à Julia Domna, la femme du fondateur de la dynastie des Sévères, Septime Sévère, qui était une femme de caractère, une vraie femme de pouvoir. Et ça se voit d'ailleurs dans ces portraits qui sont vraiment imprégnés d'une force de caractère considérable.
Alors, un autre pan de cette vie de citoyen de la cité romaine, c'est la religion. Contrairement à ce qui s'est passé après, les Romains pouvaient avoir une religion d'une certaine liberté. Il y avait les dieux des villes, c'est bien ça ?
Oui, alors la religion, on parle vraiment des religions romaines finalement, si on veut être exhaustif, puisque dans un système polythéiste, il n'y a pas d'exclusivité d'une dévotion, d'une foi. D'ailleurs, la religion n'est pas vraiment une affaire de foi ou de croyance, mais une affaire de participation à un culte, culte civique, qui est le culte de base, celui de la communauté civique. Mais en réalité, chaque communauté possède des cultes qui lui sont propres. Une famille a son culte, une légion a son culte, une association a ses cultes, une cité, bien entendu, a ses cultes. Et chaque cité a une religion qui est différente de la cité voisine. Donc il y a un maillage ou un millefeuille, finalement, de religions qui sont liées à l'appartenance de l'individu à différentes communautés. Et à ce titre, la grande différence que l'on peut établir, c'est entre la religion publique, qui est celle de la cité, qui est un élément important de la définition de la communauté civique, et, disons, les dévotions privées, qui sont là laissées au libre choix de chacun de participer à tel ou tel culte, qui peuvent être des cultes électifs. Je pense au culte de Mitra, par exemple, qui se diffuse dans l'Empire romain de manière sur tout le territoire de l'Empire romain, et qui est un culte essentiellement privé. Donc, c'est très intéressant de voir que ces cultes, ces différentes dévotions, ces différentes obédiences religieuses n'entrent pas du tout en conflit. En fait, n'entrent en conflit que dans le cas des monothéismes, qui sont exclusifs et qui ne supportent pas, au sens objectif du terme, que l'on sacrifie à la fois au dieu de la cité et au dieu chrétien ou juif, puisque ce sont les deux grands monothéismes de l'Antiquité.
Est-ce qu'on peut parler à cette époque d'une certaine forme de laïcité ? Est venu interrompre après la religion officiellement reconnue du catholicisme.
On ne peut pas parler de laïcité puisque la vie publique est imbriquée avec la vie religieuse. En revanche, la laïcité ne peut pas exister dans l'Antiquité puisque, comme je vous le disais, la religion n'est pas une affaire de foi, une affaire de croyance. La catégorie même de laïcité n'est pas pertinente. En revanche, on peut parler d'une très grande tolérance. C'est-à-dire que les dieux de chaque communauté sont légitimes à exister. Les dieux de telle cité ne sont pas remis en cause par la conquête romaine, bien au contraire. Il y a donc de ce point de vue-là une grande ouverture religieuse, une grande tolérance. Et je dirais d'ailleurs que cette tolérance s'applique initialement au monothéisme également. Ce que les Romains reprochent au judaïsme, ce n'est pas d'être juif, ce n'est pas d'avoir une dévotion particulière, mais c'est d'avoir des pratiques religieuses qui les mettent à l'écart de la communauté dans l'Empire, qui les empêche de participer de manière communautaire aux pratiques religieuses qui sont communes. La même chose avec les premiers chrétiens, hein, qui sont forcément un monothéisme exclusif qui ne tolère pas, lui, finalement, la coexistence avec d'autres figures divines et d'autres religions.
Est-ce que les empereurs se ressentaient ou voulaient donner l'idée qu'ils étaient un peu d'essence divine ou pas?
Alors, on va très vite rendre un culte à l'empereur. On va très vite en faire une figure quasi divine, auquel on rend des hommages qui sont des hommages que l'on adresse traditionnellement aux dieux. À Rome, ça prend la forme d'une procédure très particulière qui est la consécration de l'empereur. À sa mort, le Sénat, donc un organe officiel de la cité, décide que tel empereur sera compté parmi les divinités. Donc il est divinisé, mais après sa mort seulement. Et à ce moment-là, il possède un temple, on lui rend des hommages cultuels, etc. Dans les cités de l'Empire, dans les communautés de l'Empire, les choses sont beaucoup plus complexes et on observe que très tôt, dès le règne d'Auguste, on a un culte impérial qui se met en place, qui est adressé directement à la forme divinisée de l'empereur vivant. Donc oui, l'empereur est considéré comme un dieu, mais disons que les bons empereurs sont ceux qui vont laisser les communautés le considérer comme un dieu. Les mauvais empereurs sont ceux dont on se souviendra parce qu'ils ont voulu eux-mêmes, ils ont souhaité être considérés de manière proactive, en quelque sorte, comme des divinités. On pense à Caligula qui voulait faire sculpter son visage sur les statues de Zeus, etc.
Pour régner et pour étendre l'Empire, Rome a fait des chantiers pharaoniques d'une certaine manière, et notamment des constructions de routes en quantité. Je veux dire, la route de la soie existait déjà à cette époque.
Oui, la route de la soie existait déjà. On a trace de contacts commerciaux entre l'Extrême-Orient, enfin en tout cas l'Orient, l'Inde notamment, et le monde romain. Il y a des ivoires indiens qui ont été retrouvés à Pompéi, par exemple. Donc ces échanges à grande distance existaient déjà à l'extérieur de l'Empire. Et le réseau routier, c'est vraiment une innovation romaine qui sert à structurer l'Empire, qui est une amélioration technologique très importante qui permet de faciliter les circulations, qui d'ailleurs, on ne retrouvera un niveau de circulation comparable, une facilité de circulation comparable que bien tard dans l'histoire européenne, après la chute de l'Empire romain.
Alors cette chute, on peut peut-être en parler un peu. On dit que des hordes venues de l'Est se sont abattues et se sont installées aussi, on peut dire, à Rome. Est-ce que toutes ces belles routes et ces grands chantiers n'ont pas suffi à préserver la cité ?
En réalité, la chute de l'Empire romain est un phénomène extrêmement complexe qui est lié à de multiples facteurs historiques. Les invasions barbares en sont une composante essentielle. Effectivement, ce grand phénomène de migration depuis les steppes d'Asie centrale et l'Europe septentrionale qui va amener des peuples entiers à vouloir pénétrer sur le territoire de l'Empire, à s'y installer, qui vont résulter en des invasions, des conflits armés très importants à partir du 3e siècle de notre ère. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi une transformation même des structures de l'Empire, et notamment dans la relation aux cités, où l'Empire devient de plus en plus présent dans la vie quotidienne des cités, intervient de plus en plus fréquemment dans l'administration des communautés locales, notamment pour prélever l'impôt de manière de plus en plus lourde. L'Empire, finalement, va devenir disproportionné, va être un empire qui, politiquement, prend une place très importante, alors qu'auparavant, il avait su se reposer véritablement, fonder sa domination sur l'autonomie des cités. On observe au 3e, 4e, 5e siècle, une transformation de ces équilibres qui vont amener l'Empire à être finalement de plus en plus colossal, de plus en plus important et donc de plus en plus fragile.
En fait, il y a une sorte de point critique, d'inversion de tendance, et peut-être aussi le poids de l'argent pour financer les guerres et l'extension du territoire. Il y a une limite.
L'armée romaine, le financement des légions romaines est un poste de dépense de plus en plus important, un phénomène qui va être accentué d'ailleurs par la manière dont les empereurs romains vont essayer de se ménager la loyauté des troupes en leur faisant de plus en plus de distributions monétaires, de plus en plus dispendieuses, à mesure qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, ce sont les armées, les légions qui font les empereurs. C'est ce que je disais, l'État, l'Empire devient trop important, devient colossal. Et en fait, c'est un colosse au pied d'argile qui peut s'effondrer relativement vite du fait de ces déséquilibres. D'autant que le poids de l'argent n'est pas limité à l'armée. Et on voit au IVe siècle notamment se mettre en place une importance grandissante de l'or, de la gratification financière. Les postes de fonctionnaires impériaux sont classés en fonction de leur salaire, en quelque sorte. On a une prégnance de l'argent, de la valorisation monétaire qui est de plus en plus importante à partir du règne de Constantin, notamment.
Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour aujourd'hui ?
Oh, je ne crois pas. Non. On vit dans un état et dans un monde qui est très très différent. Donc je ne pense pas que la leçon de l'Empire romain soit très utile aujourd'hui, si ce n'est pour nous rappeler que le caractère transitoire de toute formation historique et de toute situation mondiale.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.